Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Patience et Galula Banangue. Au sommaire de cette édition d'information, les évêques et archevêques de la province ecclésiale de Bukavu dénoncent l'insécurité croissante dans la partie est de la RDC, suivie de la paralysie de l'économie. Ils l'ont dit ce week-end à Butembo, au Nord Kivu, à la clôture de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Un groupe des ex-bandits urbains, communément connus sous le nom des Kuluna, regagne Kinshasa après 2 ans de rééducation et de formation à Kanyamakasese. Formés spécialement à la maçonnerie et à la menuiserie, ces jeunes seront déployés dans la réhabilitation de plusieurs infrastructures du pays. L'invité de ce journal est John Seya Kalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika. Il revient sur les érosions qui menacent la prison centrale de Kalemie ainsi que les difficultés pour financer les travaux contre ces érosions. Bonjour à tous. Ce journal part de Butembo, dans le Nord Kivu, avec cette déclaration. Quand nous entendons notre peuple parler de l'origine de nos souffrances sans fin, il nous dit globalement que tout ceci arrive parce que l'État congolais est mort et que nous, les gouvernés, sommes abandonnés à notre triste sort. C'est la déclaration des évêques et archevêques de la province ecclésiale de Bukavu qui regroupe les diocèses catholiques de Bukavu, Butembo, Beni, Goma, Kasongo, Kindu et Uvira. Ils l'ont dit ce week-end à Butembo, au Nord Kivu, où s'est tenue du 8 au 14 avril 2024 l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Dans leur déclaration finale, les prélats catholiques disent que l'insécurité est devenue endémique dans la partie est du pays, avec son cortège de tueries, y compris en pleine journée, des massacres et d'enlèvements de paisibles citoyens dans plusieurs villes et villages de leurs entités. Martial Papimukeba pour les détails.
Dans leur message final, les évêques dénoncent les tueries et les enlèvements des civils, l'encerclement de la ville de Goma par les M23 soutenus par les Rwanda, la paralysie de l'économie par une stratégie d'isolement et l'asphyxie des grandes et petites agglomérations, ainsi que l'abandon par les FRDC de leur position au front et de la logistique des guerres aux rebelles du M23 au Nord Kivu. Les prélats catholiques dénoncent également la cohabitation, voire connivence des miliciens Maïmaï Malaïka avec les FRDC et la PNC, ou encore l'existence des tribunaux forfuites, des milices à côté des parquets et tribunaux étatiques à Kasongo dans les Maniema. Selon eux, cette situation est causée, entre autres, par les faibles exercices des fonctions régaliennes de l'État et le manque de volonté politique. Les évêques recommandent au chef de l'État la mise en place rapide du gouvernement composé de personnes compétentes et honnêtes pour la gestion des affaires publiques au profit du peuple. À la communauté internationale, les prélats catholiques lancent un message fort. La RDC n'est ni à vendre ni à exploiter anarchiquement. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, les combats ont repris ce lundi matin entre les FRDC et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23. C'est notamment dans les villages Nyamubingwa, en groupement de Mufunishanga, territoire de Masisi, et vers les nord de Kikuku, en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, depuis hier, la situation reste volatile, en particulier autour de Sake. Bernardin Nyangi.
Dans le territoire de Masisi, ces affrontements se concentrent depuis tôt ce lundi, autour de l'agglomération de Bwiremana, chef-lieu de la chefferie de Baoundé, indiquent plusieurs sources locales. Elles précisent que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues toute la matinée, notamment sur les collines de Ndumba et Kiluku, près des notabilités de Kituva, Mahoma et village Chacha. Les rebelles du 1-23 auraient lancé l'attaque, selon nos sources, mais font face à une violente réplique de la part de l'armée congolaise et des combattants des groupes armés locaux. Ces combats reprennent dans cette zone après un autre épisode d'accrochage rapporté hier dimanche, toujours dans la matinée, autour de Sake. C'était précisément sur les collines Kiuli, Vunano et Kimoka. Certaines sources proches des groupes armés parlent de récupération par l'armée congolaise d'une position des rebelles sur ces collines. Par ailleurs, depuis 10 heures locales ce lundi, de fortes détonations d'armes lourdes et légères sont attendues au nord de Kikuku, chef-lieu de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nos sources parlent de combats qui opposeraient les FRDC et groupes armés locaux aux rebelles du 1-23. Goma, Bernardin Aguirre, Radio Okapi.
Pendant 7 ans, à Ituri, 7 personnes, dont un rebelle ADF, ont été tuées samedi lors des affrontements entre les FRDC et ses groupes armés à Ndalia, à environ 5 km au sud-ouest de Bounia, dans les territoires d'Irumu. Les porte-parole de l'armée à Ituri indiquent que les forces loyalistes ont réussi à libérer certains otages de main de l'ennemi. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, encourage l'armée à poursuivre ses opérations en vue de démanteler ses rebelles qui ont intensifié les exactions contre les civils dans la région. Martial Kizabiamungu.
Les FRDC ont lancé depuis samedi des opérations offensives sur les positions des ADF actifs vers Ndalia sur les tronçons Komandaluna dans la chefferie de Walesevunkutu. Selon les porte-parole de l'armée à Ituri, l'objectif est de mettre fin aux attaques et tueries des civils par les rebelles des ADF dans cette zone. Le lieutenant Gilles Ngongo indique qu'au cours de ces affrontements, un de ces inciviques a été neutralisé. Certains otages qui se trouvaient dans leur bastion ont réussi à s'échapper pendant les combats. L'ONG de défense des droits de l'homme, CRDH, déplore également le meurtre de 6 civils, dont un nourrisson par les rebelles des ADF pendant les affrontements. Une femme a été également blessée par balle, ajoute la même source. Ces combats ont perturbé la circulation samedi sur la route nationale numéro 4 entre Komanda Luna pour reprendre le dimanche matin. L'armée sollicite la collaboration de la population pour la réussite de ces opérations qui vont se poursuivre selon son porte-parole dans d'autres bastions des ADF dans les territoires d'Irumu. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour parler cette fois d'un convoi humanitaire tombé dans l'embuscade des miliciens de la Codeco hier dimanche vers Fataki sur la route nationale numéro 27 dans les territoires de Djougou. Les membres de l'équipage ont été menacés de mort puis dépouillés de leurs biens sans faire des victimes, déclarent des sources de sécurité. Selon la société civile, la recrudescence de l'insécurité par des groupes armés a réduit sensiblement l'intervention des humanitaires au détriment des milliers de sinistrés des guerres dans ces territoires. D'autres ont suspendu leurs activités ou délocalisé leurs bases. Isaac Remoyope.
Ces convois des humanitaires revenaient de certaines localités du territoire de Djougou pour faire l'identification des déplacés dans le cadre d'un projet d'assistance. Ils sont tombés dans l'embuscade d'un groupe de miliciens de la Codeco sur les tronçons Gokalou-Fataki sur la route nationale numéro 27. Ces assaillants les ont menacés de mort et puis les ont dépouillés des téléphones et de l'argent. Selon la cité civile locale, les exactions des groupes armés contre les humanitaires sont récurrentes. Elle cite notamment les sans-dits en janvier d'un véhicule des humanitaires transportant des vivres, mais aussi les sabotages des leurs actions dans les pillages en mars dernier de l'hôpital de Drodro et l'attaque des sites des déplacés. Ces regains de sécurité observés depuis le début de cette année obligent certaines organisations internationales, dont Action contre la faim et Médecins sans frontières, à suspendre leurs activités dans certaines entités du territoire de Djougou. D'autres ONG ont délocalisé leurs bureaux, notamment dans les territoires voisins de Mahagi ou dans d'autres centres de Djougou qui sont sécurisés, ce qui aggrave la situation humanitaire des milliers de déplacés qui était déjà préoccupante faute d'assistance et d'accès aux champs occupés par des miliciens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction province du Tanganyika, où un militaire de FRDC a abattu un activiste de la société civile. Les drames s'est produit samedi dernier dans les villages Katongé, secteur Louvois, dans les territoires de Manono. D'après l'administrateur du territoire, la victime qui se nomme Salou Mumianga a dénoncé les exactions commises par le militaire dans cette contrée, ce qui n'a pas plu à un militaire qui a tiré à bout portant sur l'activiste de la société civile. L'administrateur du territoire de Manono, Cyprien Kitanga, est au micro de Paulin Munanga.
Tout a commencé le jeudi où le militaire qui sont cantonnés au village Katongé, situé à 165 km de Manono centre, ont commencé à entrer dans des maisons de gens pour voler l'argent et violer les femmes. L'acteur là, M. Saloum, de la société civile, qui a pu dénoncer au niveau du secteur, et puis l'audio est tombé dans les mains de gens qu'on a remis au militaire là qui était indexé. Alors le militaire a trouvé bon de tirer à M. Saloum, 3 balles, et M. Saloum est décédé sur les champs. Jusque-là, la situation est au contrôle. On a amené le défunt Saloum au niveau de Kiambi et puis le militaire qui a pu tuer M. Saloum, il est aussi aux arrêts. Nous condamnons avec dernière énergie le comportement qu'a commis le militaire et là, le conseil de sécurité a statué pour qu'on puisse déplacer tout le militaire de Katombe qui puisse avoir un remplacement immédiat et puis le militaire là, il sera condamné. Nous appelons la population de Katongé, des secteurs de Louvois au calme. Nous sommes en train de fuir ce dossier et puis on va trouver des solutions quant à ça.
Nous l'annoncions en titre, arrivé hier dimanche à Kinshasa d'un premier groupe sur les 1600 ex-Kuluna après 2 ans de rééducation et de formation à Kanyamakasese. Formés notamment à la maçonnerie et à la menuiserie, ces jeunes seront déployés à travers les pays pour servir la nation à travers l'agriculture, la construction des écoles et des hôpitaux. Un groupe sera installé ici à Kinshasa dans la commune de Lancélé pour la fabrication des banques et les services nationaux offrira gratuitement aux écoles qui en manque et pour la réhabilitation très prochaine de l'hôpital général de Kitambo. On écoute les explications du général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est Lancélé. Lancélé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer des bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec les bancs fabriqués par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens, eh bien d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela, il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens.
À Kinshasa, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa s'est dit indignée du traitement qu'elle qualifie de dégradant réservé au cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Les faits se sont passés ce dimanche à l'aéroport d'Ndjili où les services aéroportuaires ont refusé l'accès au salon VIP au prélat catholique selon des sources sur place à l'aéroport d'Ndjili. Les points avec Cynthia Bashi Zinabizana.
Le cardinal Ambongo se rendait à Rome ce dimanche 14 avril à midi. Étant membre du C9, le conseil de 9 cardinaux qui assiste le pape François dans son projet de réforme de l'Église. C'est alors que les services officiels aéroportuaires lui ont réservé un traitement dégradant, précise la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa dans son communiqué. Des sources sur place à Ndjili évoquent le fait que l'accès au salon VIP de l'aéroport a été refusé au prélat catholique qui a été conduit dans la salle d'attente réservée aux passagers ordinaires. Situation qui a indigné beaucoup de témoins qui ont vécu la scène. Aujourd'hui, l'Église catholique ne comprend pas cette attitude des services officiels, d'autant plus que le cardinal est détenteur d'un passeport diplomatique. Un statut reconnu à tous les cardinaux, même sur le plan international, précise encore le communiqué de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Sur le plan politique, la coalition Lamuka de Martin Fayoulou a été la première force politique à réagir. Elle a dénoncé cet incident présenté comme un manque de respect à l'endroit du cardinal Fridolin Ambongo et met en garde contre une dérive dictatoriale dans le pays. Aucune réaction pour l'heure du côté du gouvernement congolais.
En politique, tractation autour de l'installation des animateurs des institutions de Kinshasa. L'Union sacrée dévoile ses tickets pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la capitale, prévue pour le jeudi 18 avril prochain. Au cours d'une réunion hier tard dans la nuit, le secrétaire général de l'UDPS et membre du présidium de l'Union sacrée a mis en garde les élus de Kinshasa face aux tentatives de corruption au cours des prochaines élections. Il ressort du consensus trouvé que les tickets de l'Union sacré pour l'élection des membres du bureau définitif est composé de Lévi Mbuta Sangapaba de 4AC, candidat président, Germain Tinyama de l'ANB, vice-président, André Kongolo de l'AFDCA, rapporteur, Clovis Samba du MLC, rapporteur adjoint et Socrate Mubengai de l'UDPS, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Rendons-nous à présent au Kasaï où une 30aine d'ONG de la société civile des femmes ont été outillées sur les notions liées au leadership féminin et organisationnel. Cette session de 2 jours clôturée le week-end a été organisée par l'ONG FMMDI, Femmes main dans la main pour le développement intégral avec l'appui du HCR dans le cadre du projet de prévention et amélioration de la qualité des réponses sur les VBG. À en croire la directrice pays de FMDI, les soucis et d'interpeller les femmes et les pousser à initier des actions sur leur promotion pour développer leur leadership. Les propos de Nathalie Kambala sont recueillis par François Kadima.
Vous savez que les femmes jouent d'abord un rôle très important dans la communauté, mais malheureusement, le travail est ignoré et parfois minimisé par nous-mêmes, la communauté. Voilà pourquoi d'ailleurs que les femmes et les filles ne participent activement aux instances de prise des décisions. Il y a des inégalités, d'autres formes de discrimination dont elles sont victimes et ne peuvent pas vraiment être très efficaces sur terrain. Voilà pourquoi nous avons pensé à organiser cet atelier pour interpeller d'abord la conscience de femmes sur leurs droits et aussi comment elles peuvent parvenir à initier quelques activités visant à leur promotion du leadership féminin, même d'autres thématiques dans leur milieu respectif.
Actualité internationale.
Une conférence humanitaire sur le Soudan s'est ouverte ce 15 avril 2024 à Paris avec la volonté de briser les silences entourant la guerre oubliée qui se déroule depuis tout juste un an dans ces pays d'Afrique de l'Est, de récolter plus d'un milliard d'euros de dons et de coordonner les médiations pour mettre fin au conflit.
L'invité.
Notre invité est John Seya Kalunga, ministre provincial des infrastructures du Tanganyika. Il revient sur les érosions qui menacent la prison centrale de Kalemi. Il évoque aussi les difficultés pour financer les travaux contre ces érosions. John Seya Kalunga s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur le ministre John Seya Kalunga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Il y a un sérieux problème qui se passe au niveau de la prison centrale de Kalemi. Cette prison est menacée par une tête d'érosion qui s'avance dangereusement sur les murs de clôture de la prison. Et pouvez-vous nous en parler?
Certainement, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement. Mais nous, en tant que ministre des infrastructures, nous avions fait le travail qui est le nôtre en demandant à ce que les moyens soient mis à notre disposition pour lutter contre cette érosion. Ça veut dire que nous avions à l'époque requéri l'expertise de l'Office des routes pour faire les évaluations. Bon, Office des routes comme OVD d'ailleurs à l'époque, mais comme il était question d'intervenir pratiquement sur ces ponts, avec la petite expérience qu'on a eue dans la province avec l'Office des routes, on s'est dit bon, il faut confier le travail à l'Office des routes qui a aussi fait ces évaluations. Que nous avons déposé acquis des droits, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la suite pour que le travail soit fait. Mais malheureusement, plus on attend, plus les dégradations deviennent importantes et moins le devis qu'on a déposé devient obsolète. Donc, il faut le réactualiser au stade actuel.
Sur le plan technique, pouvez-vous un peu nous décrire ce qui se passe réellement là à côté de la prison?
Premièrement, il y a eu désensablement du talus et puis il y a eu effondrement de la culée du pont qui a provoqué le départ de tous les talus qui étaient à côté pour protéger n'est-ce pas l'ouvrage, et ça a coupé pratiquement la voie d'accès de ce pont à tel point que il était pratiquement impossible. L'ouvrage lui-même il tenait encore, mais il fallait réparer les voies d'accès et créer un mur de soutènement du talus pour éviter que l'érosion ne puisse entamer aussi bien la fosse septique qui nous avait été construite par la MONUSCO, mais aussi les murs de clôture que nous avons réparé. D'ailleurs, le gouvernement avait réparé ces murs de clôture parce que ils menaçaient de s'effondrer. Nous l'avions réparé. Alors il fallait faire tous ces travaux sur une longueur de près de 55 à 60 mètres de mur de protection pour contenir les talus. Et aussi, il fallait faire le curage de la rivière Kalemi parce qu'il y a des éléments halogènes qui gênent la circulation libre de l'eau. Mais malheureusement, tout cela nous a été difficile à cause de manque de moyens. Le problème, certes, il n'a pas commencé aujourd'hui, mais je voudrais vous rappeler que même la fosse septique, elle est terminé pratiquement en 2022. Les travaux étaient faits par la MONUSCO. Nous avions observé les problèmes qui étaient les plus urgents en son temps. C'était une partie du mur de clôture de la prison qui avait des fissures et qui menaçait pratiquement de tomber. Nous avons réparé ces murs. Au mois, je pense, octobre-novembre, nous avions prévenu pour la nécessité de curer cette rivière et contenir, disons, la rivière dans son lit. Bon, voilà, les moyens n'étaient pas mis à notre disposition. Quand il y a eu les premiers dégâts des premières pluies, nous avons prévu est venu également pour que nous puissions réparer, notamment en réparant la culée et remettre les remblais pour contenir les talus. Bon, les moyens n'étaient pas venus. Plus vous ne faites rien, plus les dégâts deviennent importants. Et malheureusement, c'est le cas dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Maintenant, qu'est-ce qu'on attend encore pour commencer avec les travaux?
Bon, commencer les travaux nécessite de l'argent. Le gouvernement est sous contrôle de l'inspection générale des finances. Généralement, c'est à cela que les choses bloquent un peu. L'établissement public qui a été choisi pour élaborer les travaux avait fait son devis, qui est aujourd'hui dépassé parce que les devis ne prenaient pas en compte la construction pratiquement d'un pont, parce que le pont qui était là, il était encore en état, mais après les dernières pluies, le pont s'est affaissé d'un côté, ce qui fait qu'il faut le détruire pour jeter carrément un autre pont. Enfin, ça va nécessiter beaucoup de moyens plus que ce qu'on a envisagé.
Que craint l'IGF d'après vous par rapport au fait qu'il devrait autoriser la sortie des fonds pour entamer les travaux?
Et bon, c'est une question qui devait leur être posée. Ils sont le mieux habilités à donner la meilleure des réponses. Mais moi, je pense que nous sommes un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Peut-être qu'ils suspectent que nous risquons de prendre l'argent et partir, mais c'est irresponsable ça. Mais dans l'expédition des affaires courantes, il y a les urgences aussi qu'il faut assurer.
Monsieur le ministre John C. Akalunga, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Pierre Diassinois, sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Élisée Tchukota Tchivueta. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. À vous tous, chers auditeurs, merci de l'avoir suivi.